Renault.
Souvent, les gens me demandent « Allez, José, refais-nous machin qu'on rigole !» Mais non, il faut l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention, mon bonhomme.
Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, bénéficiez de 40 euros déduits sur votre recharge climatisation pour tout véhicule. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre à particulier jusqu'au 31 août 2024. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h03, on est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Élise Gottfarb et Perico Légas. Dans un instant, on va parler d'Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy, qui souhaitent supprimer les droits de donation. D'accord, pas d'accord avec eux. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On va se demander s'il faut généraliser les 30 km/h dans toutes les villes de France. Et on parlera également, eh bien, d'une croisière à vie. Est-ce que ça vous fait rêver ou pas? On vous expliquera tout dans le zapping. À 14h, des jeunes ruraux qui passent plus de 2h30 chaque jour dans les transports. La vie à la campagne est-elle synonyme d'enfer? Dites-nous si vous avez habité à la campagne et que vous y êtes bien, ou si au contraire vous voulez absolument retourner en ville. On vous attend également sur l'appli RMC. Et puis il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, et je vous rassure, c'est défiscalisé, hein. Jusqu'à 20 000 euros à gagner aujourd'hui sur RMC, c'est un jeu. Oui. On ne paye pas sur les gains de jeu. 20 000 euros à gagner sur RMC, c'est la roue. Dès que vous entendez ce signal, vous avez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. Cette alerte, elle peut tomber à tout moment. Il y a jusqu'à 20 000 euros à gagner.
RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la tribune du jour, et c'est celle dans le Figaro d'Éric Ciotti, le président des LR, et de François-Xavier Bellamy, candidat LR aux européennes. Ils souhaitent diminuer très fortement l'impôt sur les successions et supprimer les droits de donation en ligne directe, c'est-à-dire au bénéfice des enfants et des petits-enfants, une mesure qui devrait être appréciée des Français.
Oui, c'est ce que laisse entendre une récente étude IFOP. D'après elle, cette idée, celle de donner à ses descendants ou à des proches, séduit une majorité de Français. 62% disent envisager de léguer une part ou leur héritage par le biais d'une donation. Les avantages, d'après eux, la donation est d'abord vue comme un moyen de réduire les impôts sur l'héritage que devront payer leurs ayants droit. Aujourd'hui, on peut donner à ses descendants directs jusqu'à 100 000 euros sans être imposé, et ce, tous les 15 ans. C'est la première raison citée donc dans 49% des cas. Vient ensuite l'idée d'une transmission progressive du patrimoine, le moyen d'éviter les conflits familiaux aussi, ou encore d'aider des proches, que ce soit face à des aléas du quotidien, des imprévus, ou alors pour financer un projet comme un achat immobilier. Selon des chiffres publiés par l'INSEE, en France, 18% des ménages ont déjà reçu une donation. La moitié de ces donations représentent moins de 30 000 euros, 31% entre 30 000 et 100 000 euros, et 19% seulement 100 000 euros et plus.
Alors, faut-il supprimer l'impôt sur les donations, Élise Gottfarb?
Moi, je pense qu'on en avait déjà parlé ensemble, d'ailleurs.
À part les droits de succession.
Oui, voilà. Moi, je pense que pour les donations, écoutez, ça doit être une fois de plus pour moi du cas par cas et.
Ah ben on peut pas là. Ah ben c'est pas possible là. Ben non.
Bah si.
Tu peux pas dire. Mais non. C'est pas dit, c'est une loi. Ben non, l'impôt doit être une loi. Tu peux pas faire du cas par cas.
Oui, mais en fait, il y a des gens, par exemple.
L'universalité de la loi. Il y a pas de cas par cas en France.
Oui, mais pour moi, en fait, il y a des gens qui peuvent être exonérés d'un impôt sur les donations parce que. Ils ont moins d'argent que d'autres. Pour moi, ça doit être toujours les très riches qui doivent payer le plus dans ces cas-là. Donc, on doit.
Ça s'appelle la progressivité.
Mais oui.
C'est déjà le cas. Bah, la progressivité, c'est que le taux de succession, le taux de donation, est à 0% en deçà des 100 000 euros. Et plus tu progresses dans la donation ou l'héritage, la transmission, tu vas payer un taux d'impôt plus élevé.
Oui, mais il y a des gens pour qui donner 100 000 euros, c'est genre.
C'est 0% en deçà.
Mais de toute façon, ils ne sont pas imposés jusqu'à 100 000 euros. Mais si, par exemple,
oui, je suis d'accord.
Tu veux donner 200 000 euros à ton enfant pour qu'il crée son entreprise, par exemple, ou qu'il puisse se loger, etc. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Et donc, tu as des retraités qui ont beaucoup d'argent, qui aimeraient donner plus. Alors, petits enfants, ils ne peuvent pas le
faire. Je suis d'accord, donc ça, j'ai compris. Mais il y a des gens, du coup, qui sont très riches, qui peuvent donner à leurs enfants énormément d'argent.
Bah non, ils ne peuvent pas, justement.
Beaucoup, mais qui vont payer
Ils vont payer beaucoup d'impôts, d'accord. Ouais. Mais alors que d'autres vont devoir payer beaucoup d'impôts, mais n'ont pas les moyens de payer ce beaucoup d'impôts.
Bah, s'ils donnent beaucoup
donc,
d'argent,
ça les pénalise.
S'ils donnent beaucoup gratuit. D'argent, c'est qu'ils ont beaucoup
bah oui,
d'argent.
Non, il y a des gens qui économisent toute leur vie.
Bah, alors, 100 000,
si, excuse-moi, s'ils si ont un 100 000,
c'est
ils ont un patrimoine de 100 000 euros, ça m'étonnerait que ce soit précaire.
Bah, non, parce que quand t'habites à Paris, que t'as un appartement, par exemple, à donner. De façon patrimoniale, c'est ton patrimoine. 200 000 euros un appartement à Paris, il y en a très peu.
Ben non.
C'est vraiment des studios.
C'est bien pour ça.
Donc,
qu'on dit, c'est bien pour
qui,
ça.
Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie oui. pour acheter un appartement, pour aujourd'hui faire une plus-value. Moi, je suis pour faire une plus-value et pour donner à ses enfants.
Oui.
Je suis d'accord pour qu'il ne paye pas d'impôts. Ça, d'accord.
On est d'accord s'il fait une plus-value, c'est qu'il a gagné de l'argent.
Bah, oui, qu'il a gagné de l'argent, mais parce qu'il a travaillé toute sa vie.
Mais quelqu'un de très riche peut avoir travaillé toute sa vie, en fait.
Mais quelqu'un de très riche qui a un patrimoine supérieur à 5 millions d'euros, imaginons. Oui.
Mais il paiera beaucoup d'impôts.
Je suis pour qu'il paye beaucoup d'impôts.
Mais en d'accord. Fait, donc tu es.
Moi, je suis.
Tu es contre ça. C'est-à-dire qu'en fait, ben si, tu es contre la suppression de l'impôt sur les donations. Voilà. Si tu es pour
ça
que les
dépend
gens
des cas. Parce que mais, je suis d'accord, par exemple.
Mais c'est pas ça dépend des cas, puisque en fait, là aujourd'hui, t'as
je
pas
sais,
d'impôt.
C'est une loi, mais
t'as pas d'impôt avant 100 000 euros. Donc quand t'es capable de donner 200 000, c'est quand même t'as un petit peu d'argent, tu vois.
Mais pas du tout. Je suis désolée. Moi, je connais une femme qui est femme de ménage.
Il y a des gens qui donnent 200 000 euros sans gagner d'argent.
Qui à l'époque a acheté un appartement dans le 9e arrondissement de Paris, qui aujourd'hui est très bourgeois, et à l'époque était un quartier ultra ouvrier. Donc il y avait plein de personnes de la classe ouvrière. Si si, il y avait plein de personnes de la classe ouvrière qui achetaient des appartements rue Mogador, rue de Provence. Bref,
40.
Aujourd'hui, ils vendent ces appartements ouais. pour pouvoir.
Ah, parce qu'il y a plusieurs appartes aussi?
Non, c'est, je te parle de cette femme qui est femme de ménage, qui bon. Aujourd'hui
d'accord, une femme de ménage, si aujourd'hui elle vend son appartement, ça m'étonnerait qu'elle soit encore femme de ménage.
Voilà.
Aujourd'hui, un
mais
appartement en 9e.
Si, parce qu'elle veut protéger justement sa famille,
mais
donner à ses enfants et s'acheter une maison en banlieue
d'accord,
et être
maison,
tranquille.
Oui, mais d'accord, mais si cette dame est aujourd'hui propriétaire d'un appartement dans le 9e arrondissement.
Évidemment qu'elle va donner plus de 100 000 euros.
Mais bien sûr.
Donc aujourd'hui, elle est imposée. Et je suis désolée.
Moi, je suis pour que elle, par exemple, ne soit pas imposée. Mais qu'en revanche, quelqu'un comme moi, plus tard, qui gagne beaucoup d'argent, je sois imposée si je veux donner de l'argent à mes enfants. Pour rétablir un peu l'égalité des chances.
Déjà. Donc en fait, la première à la question, c'est que tu es contre.
Ah oui, je suis contre. Alors, c'est ce que je dis depuis 5 minutes. On a perdu 5 minutes là. Perico Legas, ne levez pas les yeux au ciel, Perico, je vous vois.
Non.
Perico Legas.
Non, je vais émettre une idée. Je trouve le système assez équitable. Mais effectivement, il peut pénaliser des gens. Est-ce que si on mettait la barre à 1 million, voilà, jusqu'à 1 million, pas d'impôt. Alors, il y a des gens, il y a quand même des très riches qui vont en bénéficier pour donner, mais voilà, 1 million. À partir d'un million, je tape.
Mais pourquoi tu dis 1 million et pas 300, pas 400, 500 000 ?
Parce que je vois ce que veulent dire.
Mais 1 million, c'est quand même une sacrée somme. Hein.
Oui, mais il y a des gens qui, effectivement, ont économisé toute leur vie, il y a un bien de 500, 600 000, 700 000.
Encore une fois, je le répète.
Ils veulent donner à leurs enfants. Non, mais on n'est pas obligé de payer non plus des impôts sur tout. Tu vois ce que je veux dire?
Là, c'est l'impôt
la
sur
fiscalité,
l'impôt.
Elle ne doit pas être permanente tout le temps. L'impôt est une impôt. Là, une donation, c'est quelqu'un qui est vivant, qui veut laisser à des enfants. C'est pour les enfants surtout, parce qu'ensuite, c'est taxé. Pour les enfants. Ils veulent leur laisser quelque chose de 5, 6, 700 000. Allez, je dis, jusqu'à 1 million. C'est gratuit.
C'est énorme, quand même.
Alors, on va dire 800 000.
Comme
on
ça,
est aussi.
Déjà, 200, c'est bien.
Moi, je
dis que 100 000,
ça.
C'est rien. 100 000 tous les 15 ans, c'est rien. Est-ce qu'on peut
ça
faire 500 000 tous les 5 ans, 600 000 tous les 12. Enfin, on trouve un. Il y aura millénaires qui sont prêts à pencher sur l'un, mais élargir un petit peu, assouplir, voilà, de façon à ce qu'on puisse transmettre sans pénalité une somme conséquente. Je rejoins un petit peu avec d'autres termes ce que
Élise,
tu disais.
Merci beaucoup.
Bien sûr, voilà. Mais là, 100 000 tous les 15 ans, c'est totalement prohibitif. Les riches, ils s'en foutent, ils le feront autrement.
C'est exactement ça que je voulais dire.
Et juste, en fait, ça permettrait aussi, encore une fois, on sait que quelqu'un qui a 80 ans, il va moins consommer que quelqu'un qui en a 25.
Évidemment.
Et donc, ça permettrait aussi, quelque part, de relancer la consommation en permettant
absolument.
À des jeunes, à la fois de créer leur entreprise, d'acheter une voiture, de pouvoir consommer, parce qu'on sait que c'est les jeunes qui consomment.
Mais c'est là où il y a une différence, justement. Il y a la distinction entre donation et transmission d'héritage.
Oui.
Effectivement, à la mort de la personne, l'héritage.
C'est
et
autre chose,
ce qui est intéressant, c'est que l'âge moyen d'héritage, c'est 58 ans.
Oui, oui.
Alors que la donation, tu pourrais effectivement cibler des taux dégressifs, et non pas progressifs, mais dégressifs par rapport à l'âge. Autrement dit, effectivement, les jeunes de 20, 25 ans qui pourraient démarrer, qui voudraient acheter un appartement et qui auraient un projet immobilier, une personne de 80, 90 ans pourrait faire une donation de son vivant avec un taux dégressif par rapport à l'âge.
Oui,
plus t'es jeune, moins tu payes. Là-dessus, je serais plutôt pour. Et c'est pour ça que je fais bien la distinction entre donation et transmission d'héritage.
Oui, complètement.
On l'a fait là.
Dans une donation, effectivement, de ton vivant, ça me paraît très logique qu'une vieille personne ou qu'un grand-parent donne en soutien à son enfant pour qu'il démarre dans la vie active. Oui. Voilà. 20 ans, 25 ans, 30 ans, je suis archi pour. Voilà. Après, la graduation, parce que 1 million, c'est quand même beaucoup. Effectivement, un appartement, admettons qu'un appartement, une maison, 300, 400 000 euros, pourquoi pas? Il y a un débat, on pourrait y réfléchir. 1 million d'euros, c'est une sacrée somme.
200 000, c'est pas mal, ça fait 15 000 par an.
200, 300 000, moi, ça ne me dérange pas. Encore plus si tu fais un taux qui ne dépend pas du montant, mais si tu fais un taux qui dépend de l'âge. Et à plus de 40, 45 ans, on admet que tu es déjà installé, donc tu n'en as pas besoin. Ouais. Mais à 20 ans, 25 ans, tu démarres, ok, on te donne et on t'aide. Créer ton entreprise, projet immobilier, projet de vie. Là-dessus, je suis totalement pour.
Je ramène à 500 000.
Ok, allez. Ça va vite. Dans 15 minutes, ce sera 200.
Non, je descendrai pas au-dessous de 500. Ne n'insistez pas, ça sera non.
Mais c'est vrai que voilà, c'est encore une fois, et c'est pas la même chose de léguer, un manoir, je ne sais où, et de léguer et de donner de l'argent de son vivant, parce qu'aussi, encore une fois, c'est aussi de l'argent que les gens ont gagné, que les actifs ont gagné, et que tu veux donner à tes enfants.
Quand tu vois que le capital, le patrimoine moyen, et je parle de moyenne, des personnes de plus de 50 ans, c'est 480 000 euros. Mmh. Ça serait bien que l'argent soit redistribué.
Voilà la somme.
C'est pour ça que
allez, 480 000.
Allez,
c'est une
super.
Très bonne moyenne.
Adjugé, vendu. Josiane est avec nous, elle nous appelle d'Albi. Et Josiane, elle est retraitée. Bonjour Josiane.
Bonjour à tous.
Josiane, est-ce que vous avez des enfants?
Oui. Mais j'ai malheureusement, si je puis dire, un fils unique. Donc
d'accord.
Autant vous dire qu'à ce moment-là, l'État va se gaver à mon décès. Puisqu'il va piquer un maximum d'argent au-delà de 100 000 euros.
Mais Josiane, est-ce que vous souhaiteriez donner plus d'argent à votre fils?
Bien évidemment, puisque il est absurde que l'État puisse encore nous faire payer des impôts sur l'argent que j'ai réussi à économiser alors que j'ai payé déjà des impôts là-dessus. Donc c'est inadmissible. Il serait quand même plus intéressant pour tout le monde que je puisse donner un peu plus de moyens à mon fils et mes petits-enfants pour les aider. Or là, si je donne au-delà de 100 000, c'est fichu, automatiquement l'État va ponctionner une grande partie en impôts. Et je ne vous dis pas, quand il s'agit de mes amies qui, elles, n'ont pas d'enfants, ils n'ont que des neveux et nièces.
Ouh là là, voilà, c'est
beaucoup qui s'occupent d'eux.
60%.
Et bien, elles sont foutues. Elles ne peuvent pas donner, puisqu'automatiquement, elles donnent à l'État.
Non, mais ça, c'est
vrai que la distinction entre transmission directe et indirecte, ça, personnellement, ça me dérange. De distinguer le fait qu'on soit enfant ou neveu et que le neveu ou la nièce devrait payer plus d'impôts, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant mais qui considère ses nièces ou ses neveux comme ses propres enfants.
Comme Fred Hermel, par exemple, qui nous parle toujours de son neveu,
il devrait payer plus d'impôts parce que c'est pas filiation directe. Exactement. Ça, là-dessus, ça me dérange.
C'est comme la pension de réversion qui est uniquement pour les gens qui sont mariés et pas pour les gens paxés. Alors que parfois, tu as eu 8 enfants avec la même personne, mais tu n'auras rien parce que tu n'as pas été marié. En tout cas, Josiane qui est favorable à cette proposition d'Éric Ciotti et de François-Xavier Bellamy. Merci beaucoup, Josiane, d'avoir été avec nous. Comment ça marche sur l'appli RMC, Rémi?
Un certain nombre d'entre vous, je dirais une majorité, même si c'est difficile à être très précis, mais enfin la plupart des messages quand même vont dans le sens de ce qu'on se dit, c'est-à-dire qu'il faudrait baisser en tout cas la fiscalité sur les donations. On pouvait déjà donner 30 000 euros cash de son vivant, léguer des terrains ou des maisons de son vivant, ça va augmenter ou disparaître, nous dit Marc. Si ça disparaît, je suis pire qu'en colère. Lui, il voudrait vraiment pouvoir léguer de son vivant ce qu'il veut à ses descendants.
Alors, c'est pas en projet.
Sans forte fiscalité. Non,
quand il dit
non mais Emmanuel Macron avait dit quand même qu'il allait réviser la fiscalité sur l'impôt. Il ne l'a jamais fait. Il voulait rehausser également les successions. Sachant que Nicolas Sarkozy, du temps de Nicolas Sarkozy, c'était 150 000 euros pour 10 ans. Et François Hollande a passé 100 000 euros sur 15 ans.
Mais on parlait des. Il faut récupérer de l'argent.
Oui, mais on parlait des tanguis. Vous savez, des gens, des jeunes qui étaient de plus en plus chez leurs parents. Et c'est vrai que si les parents pouvaient donner plus facilement à leurs enfants, ça permettrait aussi aux enfants de pouvoir voler de
projet immobilier, projet de vie, bien sûr.
De pouvoir louer ou acheter un appartement. En tout cas, vous êtes très nombreux à nous appeler sur ce débat. On a Anthony, qui nous appelle. Anthony, il est informaticien dans la fonction publique et il appelle de l'Ardèche. Bonjour Anthony.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Merci beaucoup Anthony d'être avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy?
Ben non, pas du tout. Au contraire, moi, je pense que c'est un impôt qui est le plus juste. Parce qu'on parle beaucoup de reproduction des inégalités. Mmh. Et justement, cet impôt permet de corriger cela. Si on peut tout donner à ses enfants, et ben, du coup, les inégalités vont non seulement se reproduire, mais s'accentuer de génération en génération. Donc je pense qu'au contraire, c'est un impôt qui devrait être augmenté.
Mais, alors les inégalités, c'est d'abord effectivement l'héritage, j'avais raison de le dire. Anthony, là on parle quand même de l'argent, de les donations, c'est l'argent de son vivant. Et si cet argent il reste sur un compte épargne, bah il sert pas à grand monde quand même.
Oui, c'est sûr, mais si on peut le donner de son vivant ou à sa mort, finalement, ça change rien du coup, parce que on va le donner à sa famille et donc du coup les inégalités seront reproduites de la même façon.
Oui, enfin c'est assez rare de vouloir donner de l'argent aux inconnus. Quoi. Enfin, genre, souvent on donne de l'argent à sa propre famille, à ses propres enfants. Mais encore une fois, à part évidemment, j'ai une minorité d'ultra riches en France. La plupart des gens n'ont pas un patrimoine de millionnaire.
Les ultra riches en plus contournent le système.
Oui,
parce qu'Anthony, vous parlez des inégalités à juste titre, mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'elles sont déjà très importantes en France, malgré le système fiscal.
Bah peut-être qu'il n'est pas assez progressif du coup. Moi je pense qu'on pourrait définir une somme sur laquelle il n'y a pas d'imposition. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donner sa maison, il n'y a pas de problème. Mais après sur des capitaux qui sont très importants, bah c'est là où ça reproduit l'inégalité. Donc je pense que là il faudrait avoir des taux très importants.
Oui, mais l'inégalité, de toute façon, elle le sera à un moment avec l'héritage. C'est juste là, peut-être que les gens, en fait, plus jeunes qui toucheraient cet argent, bah, pourraient plus consommer. Parce qu'effectivement, c'est 48 ans, l'âge moyen auquel on reçoit un héritage. Ouais. Bon, bah, à cet âge-là, on consomme déjà moins qu'à 25. Pierre Rondeau, tu voulais rajouter un truc?
Non, oui, non, mais c'est juste, voilà, la question sur l'argument sur les inégalités, je l'entends parfaitement. Mais je le répète, comme le disait Anthony, c'est qu'on est déjà un pays très inégalitaire, malgré un système fiscal, considéré comme très, très dur sur les ultra-riches. Parce que les ultra-riches parviennent à contourner le système, parviennent à éviter l'imposition via une optimisation fiscale, via des traitements particuliers, via des conseils d'avocats fiscalistes. Et t'auras beau mettre un taux comme certains, je me rappelle de Mélenchon qui proposait un taux de 100% pour les patrimoines de plus de 15 millions d'euros, les très grandes fortunes françaises pourront toujours contourner la chose.
Le plus haut, c'est 45% à partir d'un million, ils ont
30
000.
Ouais.
C'est 30, 25, enfin, voilà.
Exactement.
C'est 45, c'est presque à moitié, ça dure. Mais c'est à partir d'un million huit.
Et là, c'est sur l'héritage.
L'héritage direct.
Encore une fois, mais il faut bien que les gens comprennent la distinction entre donation et héritage. Donation,
oui,
c'est pas choquant, franchement.
Une donation, c'est un héritage.
C'est de l'argent,
la
une donation, c'est un contournement de l'héritage.
D'accord, mais ça permet à ce qu'il y ait une impulsion dans la dynamique de vie qu'à 25 ans, parce qu'aujourd'hui, tu hérites.
Non, c'est un prédistribution.
Tu hérites à 58 ans. À 58 ans, t'as déjà fait ta vie, t'as déjà tes enfants, t'as déjà ta maison, t'as déjà ton prêt immobilier. À 25 ans, tu débutes. Et ce serait plus intelligent qu'à 25 ans, on puisse avoir les moyen de se lancer et créer son entreprise via un patrimoine.
Exactement.
Plutôt que d'attendre 58 ans en moyenne.
Oui, mais ça veut dire que moi, par exemple, je pourrais avoir monté une boîte et être riche dès le début, alors que quelqu'un qui n'a pas mes parents, et bah, il ne pourra pas le faire.
Bah après, en vrai, la société, c'est déjà comme ça. Tu vas avoir des gens, effectivement, quand tu as des parents riches, bah, déjà, tu as plus de chances d'accéder à des boulots plus élevés. Bah,
du coup, là, on rajoute encore une inégalité aux inégalités.
Mais de toute façon, les très riches, en vrai, ils paieront de l'impôt sur les donations, ils s'en fichent. Donc, en fait, là, tu pénalises surtout les classes moyennes et classes moyennes supérieures.
Ou alors, tu peux surtaxer l'héritage pour financer une donation universelle et un patrimoine universel.
Ça, j'aime bien. On va remercier Anthony. Voilà, Anthony qui est contre pour préserver un peu l'égalité des chances. Et Ludivine également est avec nous. Ludivine, elle nous appelle de l'Isère et elle est monitrice de ski. Bonjour Ludivine.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour.
Il y a encore du ski dans l'Isère, il y a encore du ski possible dans l'Isère ?
Non, là, c'est tout fini, c'est tout fondu. On attendra un peu là, l'hiver prochain.
Ludivine, vous êtes favorable, vous, à ce que les donations ne soient plus taxées et à ce que les parents et les grands-parents puissent donner ce qu'ils veulent à leurs enfants ?
Oui, moi, je suis carrément favorable parce qu'aujourd'hui, on a la double peine, en fait, quand on a acquis un bien et qu'on a travaillé toute sa vie pour financer un bien, on prend des risques. Et on prend des risques dans une maison, dans un appartement ou pour n'importe quoi d'ailleurs. Et au moment de la donation, on voit arriver des jolies taxes. Donc on a payé toute sa vie, on recommence à payer et je trouve ça profondément injuste quoi, par rapport à des gens qui ne prennent pas le risque de le faire. Et à un moment, les inégalités, elles existent. Mais on peut pas pénaliser toujours. Pour moi, on pénalise toujours les mêmes quoi. Et ça devient compliqué.
Oui, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, les Français, ils sont très favorables.
C'est un débat finalement. Philosophique, on est d'accord.
Mais... Oui, mais les Français, ce qui est marrant, c'est que par exemple, même sur les donations et les successions, alors même que la plupart des Français ne payent pas cet impôt, ils le considèrent comme éminemment injuste et ils n'aiment pas cet impôt parce que c'est l'impôt sur l'impôt.
Dit, les donations moyennes, 30 000 euros.
Oui, donc elles ne sont pas imposées, mais oui, mais les Français sont contre cette idée d'impôt sur l'impôt, en fait.
La moitié des donations, c'est moins de 30 000 euros. Et 31%, c'est de 30 000 à 100 000.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'allez, les trois quarts des donations
ne payent pas
d'impôts. De toute façon, sont
inférieurs. Voilà. Exactement. Et Rémi, il y a quand même de plus en plus de pays qui renoncent au droit de succession d'ailleurs.
J'ai regardé, et en fait, la France, bon, ça ne va pas vous surprendre, on est sur le podium des pays qui tapent le plus en matière de succession.
Quelle surprise.
En matière de succession.
Du monde.
Oh, bah, dans les autres matières aussi.
Voilà.
Hein.
Et c'est vrai que la tendance, elle est plutôt à défiscaliser, en fait, à arrêter de taxer les droits de succession. Aujourd'hui, il y a l'Australie, le Canada, Israël, par exemple, où il y a zéro fiscalité sur les droits de succession. Et depuis 2000, en Europe, il y a l'Autriche, la Norvège, la Slovaquie, la Suède et la République tchèque.
Tes amis suédois.
Qui ont arrêté de taxer les droits de. Enfin, ont supprimé les droits de succession.
Mais comme Pierre aime bien les Suédois.
Bah, en donation, je vais dans le sens des Suédois. Hein.
Tout à fait, Péricolé.
Il faut bien payer le paresseux qui ne veut pas travailler et c'est à ceux qui ont pris des risques. Mais si, c'est à ceux qui ont pris des risques et contribué de payer pour celui qui ne veut pas travailler. Ça s'appelle la répartition nationale.
Non, mais tu peux pas dire un truc pareil, mais c'est vrai que voilà, ça aiderait quand même des gens à consommer un peu plus. Ludivine, si vos parents vous avaient fait une donation, vous auriez fait quoi avec?
Eh ben, j'aurais réinvesti ou j'aurais gardé le bien qu'ils m'auraient donné pour faire ma retraite, parce que moi je suis travailleur indépendant et j'ai besoin d'investir dans la pierre pour pouvoir avoir une retraite confortable, avec laquelle je vais pouvoir vivre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir transmettre ses biens ou à ses enfants ou petits-enfants.
Ouais, avoir plus de facilité de transmission. Mais c'est vrai, quand on reçoit un héritage à 25 ans, on peut acheter son premier bien immobilier. Quand on le reçoit à 58, on achète plutôt une résidence secondaire. Donc, c'est pas génial. Vous voyez, Pierre Rondeau, vous êtes contre les résidences secondaires. Voilà.
C'est notre débat. Pourquoi pas lancer maintenant? Mais je comprends.
À 58 ans, si t'as déjà un bien et on te donne, beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec? Merci beaucoup, Ludivine, d'avoir été avec nous. On termine avec des messages, Rémi.
Allez, j'ai ce message de Steven qui n'est pas content, lui. Nous avons déjà un gros problème de répartition des richesses dans ce pays.
C'est vrai.
Travailler en France ne permet plus de s'enrichir, l'ascenseur social est bloqué. Et malgré tout, on parle de retirer cet impôt sur les donations qui ne s'applique qu'aux gens aisés. C'est incompréhensible. C'est son avis. On vous a posé la question.
Oui.
Donner à ses enfants sans payer d'impôt, c'est le oui qui l'emporte pour 95% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Non, mais
et je crois que c'est le record. C'est le record d'Estelle Midi. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un 95,5. C'est-à-dire que les Français, en ont marre finalement de payer des impôts, surtout quand c'est l'impôt sur l'impôt, alors même qu'ils ne le payent pas. C'est ça qui est assez dingue. Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur des RMC. On va se demander s'il faut généraliser les 30 km/h dans toutes les villes de France. Pour ou contre les foyers pour les jeunes mineurs délinquants, ça vient d'être annoncé ça par Gabriel Attal. On parlera de la croisière à vie. Et puis, on peut s'en féliciter, une très légère baisse des prix dans les supermarchés. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Rémi Barré, l'économiste Pierre Rondeau, la militante féministe et entrepreneur Élise Gottfarb et le journaliste à Marianne Perricot. Les gars, et tout de suite c'est le zapping, le meilleur d'RMC dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi, le zapping RMC.
On démarre avec un extrait de Charles Matin, ce matin sur RMC. Faut-il généraliser les 30 km/h dans toutes les villes de France? Cette limitation de vitesse est déjà appliquée dans plus de 200 villes, mais l'association Prévention Routière demande sa généralisation à toutes les villes et villages de France. Une mesure très importante pour Anne Lavaux, la directrice de l'association qui était invitée ce matin sur RMC.
Pourquoi l'association demande ça aujourd'hui? Eh bien, ça ne vous a pas échappé que depuis le début de l'année, la mortalité repart considérablement à la hausse, que cette hausse de la mortalité est sans aucun doute due à la vitesse, parce que, on a un petit peu relâché la sanction autour de la vitesse avec la fin de la suppression d'un point pour les ce qui est qualifié de petit excès de vitesse. Et donc, du coup, pour notre association, c'est important de remettre l'emphase sur ce sujet, de rappeler aux Français qu'ils peuvent nous rejoindre sur ce combat.
Perico, les gars, est-ce qu'il faut généraliser les 30 km/h dans toutes les villes de France?
Certainement pas.
Ah.
Je suis pas né pour rouler à 30, j'ai pas envie.
Vous n'êtes pas né de mon pied pour rouler à 30.
Je ne roulerai pas à 30. Ils me mettront en prison, je ne roulerai pas à 30. Je suis pas un veau, quoi. Je roule normalement.
Un veau à 30.
Je comprends pas ce que vous dites.
Je dis que je trouve que c'est une mesure arbitraire, stupide, controversée. Alors on peut vous dire, mais à 10, on va tuer personne, puis on peut rester chez soi, comme ça on ne tuera personne.
Oui, c'est vrai, mais vu comme ça, oui.
Voilà.
Oui, mais tu tues moins à 30 qu'à 50.
Non, il y a des axes, il y a des axes où c'est peut-être on peut rouler à 30, où il y a un peu plus de piétons, il y a d'autres voies. 30 dans Paris, c'est absurde. En vrai, c'est d'ailleurs personne ne le respecte. Du coup, ça crée évidemment des désordres. Il y a ceux qui le respectent pas, ceux qui le respectent, ça crée des bouchons. C'est idiot, c'est une mesure dogmatique.
En ce moment, à Paris, on roule à 6 km/h.
Mais pourquoi pas 28 ou 37? Vous voyez ce que je veux dire? 30, pourquoi 30? 40? 50? Vous voyez, il y a débat. Il y a autant de débats que de dizaines de kilomètres heure là. Donc, je dis non, c'est absurde. Ça ne se fait pas, ça ne se respecte pas, ça n'apporte rien.
Ça apporte que les gens roulent plus lentement, quand même.
Non, mais qui ferme les voies.
Ça pollue moins.
Qui les voies de mer. Ah, c'est pas vrai. Alors ça, c'est pas vrai. Vous voyez, il y a eu des débats. Il y a des experts qui vous disent que si, d'autres experts qui vous disent c'est pas vrai. Parce que ça crée un déséquilibre de circulation.
Ouais, tu t'arrêtes.
Donc c'est une
mesure. C'est en continu que ça pollue moins, mais
c'est une
mesure à la con.
Et je ne m'y soumettrai pas. Voilà, je résisterai. Et il faut envoyer les gendarmes. Je ne tirerai pas, mais je ne roulerai pas.
Allez, rentre ici, Jean Moulin.
Moi, j'ai surtout envie de voir ce que ça donne dans les villes qui l'ont expérimenté. Tu vois, j'attends d'avoir les rapports, les expertises pour prendre ma décision.
Il y a des axes où il faut rouler à 30, c'est très bien et je le respecte. Mais le généraliser comme ça, à partir du moment où j'ai le mot généraliser, c'est déjà bête. On généralise pas quelque chose qui doit être
aujourd'hui on a baissé à 50 par endroit à 30 km par heure dans certaines agglomérations, mais enfin le 50 il est généralisé en agglomération.
Mais 50 c'est autre chose que 30.
Oui, merci.
Mais ce que dit la sécurité routière et notamment les signataires de cette pétition, c'est qu'effectivement c'est autre chose 50. C'est 50 km heure, tu te fais percuter en tant que piéton, t'as 10%
de chance. Oui, et puis le pot de fleurs. Alors le pot de fleurs du deuxième étage.
C'est pas grave, non, mais t'as
le pot de fleurs du deuxième étage.
C'est pas grave, non, mais c'est pas grave.
T'as
raison.
Ah, mais j'en rigole.
Après, Perico. Non, mais tu as raison. J'en ai rions-en.
Ah, mais je me marre.
Allez, quelques centaines de vies qui ne seront pas sauvées. C'est pas grave.
La malbouffe en beaucoup plus et je t'ai jamais entendu.
Oui, t'as raison. Et le tabac aussi. Et les guerres. La guerre, c'est terrible.
La guerre, c'est mal. Tout pour pas l'avoir.
Non, mais dans ce cas-là,
on fout tout pour pas l'avoir.
Perico, après, oui, effectivement, la généralisation, c'est un terme un peu, sectaire ou en tout cas qui va t'imposer dogmatique parce que, effectivement, on a des voies où il y a des piétons, il y a des écoles, il y a des bureaux, il y a des gens.
Mais là, c'est déjà 30 de facto. Mais
effectivement, de fait, le 30 en ville, sur certaines parcelles, ça ne c'est pas choquant, c'est déjà le cas. Si derrière tu imposes un 30 km/h comme pour le périph parisien à 50 après les Jeux Olympiques, il y a des choses un peu absurdes et ubuesques où il y a pas de piétons par exemple. Donc on se pose pas la question du danger s'il y a pas de piétons. Oui. Donc s'il y a des axes routiers où il y a aucune circulation de piétons, oui, les 30 c'est absurde. Voilà. Par contre, en ville où il y a des piétons, des écoles, enfants. Des enfants, des commerces, des bureaux, oui, à 30 km/h, ça me paraît logique.
Les GG ce matin sur RMC, pour ou contre des foyers pour les jeunes mineurs délinquants? Le Premier ministre Gabriel Attal veut mettre en place des courts séjours dans des foyers pour les mineurs ayant commis des délits répétés, une mesure qui existe déjà aux Pays-Bas et que partage le consultant Antoine Diers.
Bah moi je trouve ça pas mal, c'est-à-dire que je serais prêt à les mettre en prison tout de suite, mais il faut que au moins il y ait une réaction, un truc qu'on fasse comprendre aux jeunes tout de suite que c'est pas possible de tolérer ce qu'il a fait. Donc il est mis dans cet endroit-là, bonne chose. Ensuite, dans un langage très macronien, on nous dit il y aura intervention d'une figure d'autorité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une figure d'autorité? Si c'est un ancien légionnaire qui arrive et qui dit « Alors le gamin, tu arrêtes de déconner ou je te mets tarte », là, pourquoi pas la figure d'autorité?
Le légionnaire vient d'Europe de l'Est.
Bah, souvent, tu vois. Si c'est un éducateur un peu gauchiste qui arrive et qui dit « Non, mais je comprends ton mal-être », etc. Voilà, c'est pas la même figure d'autorité. Donc, vraiment, moi je dis, pourquoi pas, tentons-le, mais dans la version légionnaire courva. Je vais te mettre une grosse tarte si tu continues.
Élise Godfarb, est-ce que c'est une bonne chose, ces foyers pour les mineurs délinquants qui commettraient de mauvais actes?
Déjà, je n'ai pas du tout kiffé cet extrait.
D'accord.
Je trouve ça très réducteur et très limite raciste. J'ai pas aimé. Je suis pas pour forcément. J'ai l'impression qu'en fait, dans les foyers, finalement, ce qui se passe, c'est que les jeunes, s'entraînent entre eux à faire des trucs encore pires. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, au contraire, c'est renforcer les conseillères d'orientation, renforcer leur rôle, renforcer leur place dans les collectivités.
Je crois qu'on n'en est plus là.
Ouais, d'accord.
On est, mais... on est pour des mineurs récidivistes. Hein.
D'accord, mais en fait, j'avais regardé un documentaire sur des foyers pour jeunes aux États-Unis.
Mais là, c'est en France.
Oui, d'accord, mais aux États-Unis, les jeunes qui vivent ensemble, ils s'engrènent encore plus entre eux et le niveau de récidive, en fait, on voit qu'il se multiplie quand ils sont en
France aussi.
En vrai, en France aussi. Tu sais, l'effet de groupe et l'effet de la pression des pairs.
Non, si c'est bien fait, c'est bien. Si c'est pas bien fait, si c'est pas encadré, c'est comme une prison, c'est-à-dire qu'on ressort pire dans les temps où on est rentré.
J'ai un peu l'impression qu'il y a Gabriel Attal et le gouvernement général, ils proposent plein de trucs. Je vois pas comment tout ça peut être mis en place. Le SNU, les foyers, le machin, le truc. Ça y est, combien ils ont de spécialistes? Comment ils font les formations pour ces gens?
Ils disposent pour le faire.
C'est pas que les moyens, c'est qu'il y a les moyens humains,
les formations.
Je parlais de moyens humains, en général. Il faut voir les moyens dont on dispose. L'idée n'est pas bête du tout.
D'accord.
C'est mieux que de ne rien faire ou de les foutre en prison ou là et ce moment-là. Mais non, si c'est pour aboutir.
C'est toujours réparer quelque chose qui est cassé par-dessus. Déjà, venez, on fait en sorte qu'à l'école, les gens ils soient là, qu'ils apprennent, qu'ils n'aient pas envie de devenir délinquants.
Tu parles de prévention. Ah, il faut qu'une école qui éduque et qui
soit
d'accord.
Alors, toujours on répare au lieu de penser aux symptômes.
On fait quoi pour ceux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a que l'école ne peut pas sauver. Si on est tout à fait honnête, ceux qui trafiquent, qui ont aujourd'hui 17 ans, qui trafiquent depuis l'âge de 12 ans, ils auront du mal à revenir
Ces trafiquants dans le même foyer, ils vont juste se dire, viens, on monte une boîte ensemble et on trafique ensemble.
Tu veux qu'on les mette où?
On les met pas.
Il faut justement renforcer le travail, pour moi, et le rôle.
Oui, mais c'est quand ça échoue.
C'est angélique et c'est très joli ce que tu dis.
Non, je pense pas que ce soit angélique.
Qu'est-ce que tu fais pour, encore une fois, il y en a qui peuvent être effectivement ramenés dans le droit chemin, entre guillemets. T'en as d'autres qui sont ultra violents et à un moment, il faut bien faire quelque chose, quoi. Tu vas pas leur dire c'est pas bien.
Après,
ce que tu as fait.
C'est toute la distinction qu'il peut avoir entre la prévention et la répression. Et il faut les deux. Oui, on va pas être à la fois être angélique et demander que de la prévention, ou être sectaire et dictatorial et demander que de la répression. Il faut effectivement les deux avec une juste dose. À la fois effectivement rétablir, je dirais, la légitimité de l'autorité et ce qu'on appelait autrefois la peur du gendarme, chose que beaucoup de jeunes ont perdu malheureusement. Donc il faut rétablir l'autorité tout en s'assurant à ce que les jeunes d'aujourd'hui ne sombrent pas dans la délinquance. C'est pas un discours de gauchiste ou un discours d'angéliste de dire. Quelle est l'origine de la délinquance? Quand on a vu ce qui s'est passé pendant les émeutes, quand on commençait à avoir un discours sur la sociologie des jeunes, sur l'origine, sur la cause, sur l'explication, tout de suite, on était taxé de gauchistes. Non, il faut réprimer, il faut sanctionner, il faut condamner. On peut aussi se poser la question, avant même qu'il y ait des foyers pour jeunes délinquants, pourquoi la délinquance aujourd'hui en France explose? Alors, qu'est-ce qui explique que...
Parce qu'on n'a fait que se poser la question comme celle que tu viens de formuler et qu'on ne peut pas faire que ça.
Mais moi, j'étais pas au pouvoir. Moi, je ne peux pas comme ça prendre des décisions sur... J'aurais pu faire un effort supplémentaire et pas être là aujourd'hui avec vous.
Voilà, nos absences du pouvoir ont été salutaires pour la France. La tienne et la mienne.
Salutaire.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, souhaiteriez-vous embarquer pour une croisière à vie? C'est un concept inédit que propose un bateau de croisière qui va prochainement partir de Belfast. La croisière va durer 3 ans et demi, mais vous pouvez la renouveler à l'infini. C'est ce que nous expliquait ce matin Charles Magnan.
Le navire va partir pour un tour du monde qui va durer 3 ans et demi. L'itinéraire est prévu en fait pour suivre le printemps et l'été dans les deux hémisphères. Il fera toujours beau pendant 3 ans, ce sera toujours l'été. Vous pouvez quitter l'aventure quand vous le voulez, mais vous pouvez aussi choisir de rester pour toujours. Tous les 3 ans et demi, le bateau repasse par Belfast avant de se relancer dans le même tour du monde. À bord, il y a tout le confort que vous pouvez imaginer, des piscines, des jacuzzi, des restos, des bars, une bibliothèque, un centre médical. Comptez 30 000 euros par an, une année sur le bateau.
Et tout compris.
Tout compris. Vous pouvez même acheter votre cabine avec balcon pour environ 300 000 euros. Vous en devenez.
Ah, donc là, vous vivez là, quoi.
C'est ce qu'a choisi de faire un couple d'Américains qui vient de vendre sa maison et qui va embarquer la semaine prochaine dans sa nouvelle maison, sa cabine, voyage qui ne s'arrêtera jamais.
C'est génial. Je ne sais pas si c'est nourri, logé. C'est-à-dire que c'est 3 000 par mois? Ah, c'est tout compris. C'est 3 000 $ par mois, tout compris. Perico, ça fait rêver quand même. Et il fait beau tout le temps.
Et je me fous du confort. L'idée de la croisière à vie, faire le tour du monde, cet infameux trauma fin comme un oiseau, ICO, comme piano.
Hugo Frey, merci.
Hugo Frey, je me la mets toute la journée et je pars parce que je suis un petit peu dépité par ce monde. je me rendrai utile, j'irai voir des gens, j'ai pas besoin de grand confort, un minimum quand même.
Non,
mais philosophiquement, il n'est pas question que j'arrête de produire pour l'humanité, pour mon prochain, mais faire le tour du monde.
L'humanité se réclame.
Il y a une petite humanité qui a encore besoin de moi. Vous voyez, je les abandonnerai.
Ils scandent ton nom dans les rues.
Mais me dire que je me casse sur les mers avec un voilier. Ah ouais. Vous savez, les gens de la mer qui font les voiliers sont des gens
c'est pas un voilier.
C'est vraiment un gros
voilier.
C'est un bateau sans voile, quoi.
C'est pas tout à fait l'image que tu fais du tour du monde à la
c'est
voile.
Je quitte le monde.
Après, je pense en personne, c'est pas énorme.
Je me fiche de la locomotion à voile, à vapeur, du moment que ça avance sur les flots, que ça monte les vagues.
C'est pas Santiano.
Et le fait, si, c'est le fait de partir.
Pas un trois mains.
Jamais s'arrêter, toujours aller devant et faire le tour du monde.
L'écologie un jour, c'était les tout-bifris.
Et l'écologie alors?
Alors je dis la voile, donc c'est écologique.
Ouais, mais d'accord, mais là c'est pas la voile, là c'est le gros bateau qui
non, je prends l'idée de la croisière. À vie, ça me va. L'idée
après, de la après le délire Corso Maltese partout dans chaque coin du monde, voyager en solitaire et aller fréquenter les ports du monde entier. L'image, ok, pourquoi pas. Là, l'image qu'on vous a présentée, c'est quand même le
truc.
Moi,
ça me fait vomir.
Ça me fait penser à.
Ah si, j'ai vomi.
Moi aussi, j'ai vomi. Ça fait penser. Vous avez pas vu le film Wall-E?
Bah non.
Vous avez pas vu Wall-E, le film Disney, Pixar?
Si.
C'est un film où la planète est trop pourrie et polluée, donc tout le monde vit sur des gros bateaux et tout le monde est au bas morbide et malheureux. Et ça m'a mis l'angoisse, cette idée.
Mais attends, mais là,
il fait
toujours beau.
Non, mais trop bien de faire
nourri,
le tour du monde.
Là, t'es en vacances.
La tempête,
c'est 365 jours. Non, tu vis avec plein de gens.
Qu'est-ce qui fait la saveur du soleil? Qu'est-ce qui fait la saveur de la plage? Oui, c'est qu'on l'a de temps en temps. Quelque chose que tu as tout le temps, tous les jours, tu vas t'en blaser. Le soleil,
la plage, ça m'étonnerait.
La mer, tous les jours. Le sable fin, tous les jours. Au bout de 6 mois, t'es là, l'ennui. Ce qui est bien.
Regardez, Jérémy, tous les jours. Eh bien, je ne m'en lasse pas.
C'est ton soleil quotidien.
C'est mon soleil. Et je ne m'en lasse pas, je ne suis pas blasé. Tu vois?
Ça, c'est bon.
Moi, je trouve que.
Je pense que tu peux te taire. En fait, il n'y a plus rien à dire.
Voilà, je suis assez d'accord.
Moi, j'emmènerai Mia sur bord.
Allez, Apolline Matin, ce matin sur RMC, avez-vous constaté une baisse des prix en supermarché? Selon le dernier baromètre Circana publié hier, les prix des produits de grande consommation seraient en baisse de 0,1% sur un an. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Ah ouais. Mais la perception des consommateurs est tout autre, comme l'a constaté notre correspondant RMC à Toulouse.
J'ai pas vraiment senti la baisse des prix.
Non seulement ça baisse pas, mais ça augmente.
Je trouve que c'est toujours aussi cher.
Je constate la baisse sur les produits d'hygiène. Ce produit déodorant pour les toilettes, on a constaté une petite baisse.
Perico Légas, ça baisse ou ça baisse pas? On voit 0,1 en moyenne, mais est-ce qu'on a quand même la sensation que ça baisse?
Alors, ça peut baisser, mais ça n'a aucune importance. Ça a tellement augmenté, on va dire que l'augmentation enfin s'arrête.
Ça n'augmente plus, en fait.
Alors, ça n'augmente plus, mais il s'est pris une telle marge, ça n'a aucune importance. Ça y est, le prix acquis, l'augmentation de la vie, elle est acquise. Et donc, les agro-industriels, les distributeurs, ils ont compensé les soi-disant pertes qu'ils avaient cumulées depuis 10 ou 15 ans. Et là, effectivement, ils sont, parce que c'est eux qui décident, hein, ils freinent et pour la galerie, ils font en sorte que de temps en temps, il y a un institut à la Mont-Moelleux qui dit « Oh, il y a moins 1, il y a moins 2, 0,1, 0,2, tout le monde est content. C'est fini, ils ont pris le blé, c'est terminé.
Et puis
ils réaugmenteront dans 5-6 ans. »
Tu veux dire que ça a augmenté, à un moment, ça avait augmenté de 12-15%, c'est-à-dire qu'en fait...
Les caisses sont pleines.
Donc on reste à ces 12-15%.
Voilà, et même on s'offre le luxe de baisser de 0,2, 0,3.
Il affiche
un institut qui nous rassure, il y a la Commune d'Agir qui dit « Oh, la pastille des toilettes a baissé, quelle bonne... »
Il faut quand même rappeler qu'entre 2022 et 2023, entre 2022 et 2023, l'inflation alimentaire et seulement alimentaire était en moyenne de 15%. Ouais. Et ça a été démontré que 60% de cette inflation alimentaire spécifique était expliquée par les distributeurs qui ont reconstitué ou augmenté leurs marges.
Absolument.
Donc ça a été fait de façon artificielle.
Oui.
Donc là, comme l'a dit Perico, ils arrêtent parce qu'ils ont déjà atteint un tel niveau qu'ils sont goinfrés. Et là maintenant ils affichent et disent, regardez les prix arrêtent d'augmenter, merveilleux, promotion génialissime, on est content, on est heureux, on va les consommer.
C'est bien joué.
Mais comme il n'y a pas de contrôle, comme il n'y a pas de vérification, comme il n'y a pas de sanctions prises par le gouvernement, on a laissé faire avec l'excuse de la guerre en Ukraine, du dérèglement climatique, des problématiques sociales et diplomatiques. Ben non, 60% de la hausse était expliquée directement par les marges distributeurs.
Comment tu expliques que c'était mondial, ce phénomène?
Attention, l'inflation mondiale, par exemple, du prix du blé, effectivement, est avérée en 2020. Depuis le dernier semestre 2022.
L'augmentation des prix, ça s'est produit en Angleterre, ça s'est produit en Allemagne.
Tu as une augmentation.
On est tous d'accord pour augmenter partout les prix dans tous les pays.
Tu as une augmentation justifiée par le commerce international, par la guerre en Ukraine, par les dérèglements climatiques, et ça s'est vu sur le marché, par exemple.
Non, mais certains y abusaient, d'accord, mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a une crise inflationniste.
Après, en vrai, allez, on va se se dire qu'une baisse de 0,1%, c'est toujours une baisse.
Je vais quand même consulter Manuel Le Chypre pour qu'il me dise la vérité.
Écoutez, on ira voir Manuel Le Chypre. Allez, dans un instant, RMC s'engage avec vous. On va revenir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'affaire du pressing de Berg dans le Nord. Un pressing qui était menacé de fermeture à cause d'un simple document. On a du nouveau dans ce dossier.
Enfin.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h51, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et tout de suite, c'est l'heure de vous aider sur RMC avec Guillemette Franquet.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Guillemette, vous nous emmenez à Berg, dans le nord de la France. On reparle de cette sordide affaire de pressing.
Ah, vous vous en souvenez, Estelle?
Ah ben, bien sûr.
Eh ben, alors, on va vous rappeler quand même, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Greg, vous vous souvenez de Greg? Il a repris le pressing de sa maman. Il y a 6 ans, les vieilles machines polluantes de son pressing avaient été changées pour un système plus écolo. Sauf qu'à ce moment-là, il aurait dû réclamer une attestation de dépollution à la préfecture. Voilà, le petit document nécessaire. Mais Greg ne le savait pas, personne ne l'a prévenu. Et aujourd'hui, sans ce document, son pressing risque la fermeture.
Et c'est vrai que ça nous paraît absurde, cette histoire.
En fait, la loi a changé. Donc les conditions évidemment ont changé et sans ce précieux document aujourd'hui, Greg doit faire évaluer le taux de pollution dans sa boutique. Déjà ça, cette évaluation, elle a un coût, 7000 euros.
Et si,
donc déjà ça petit chèque pour commencer. Cher, oui. Et puis s'il y a la moindre trace de produit toxique qui est découverte, Greg devra cette fois-ci faire des travaux et la facture, elle, s'élève à 30 000 euros. Et là, le pressing mettrait tout simplement la clé sous la porte. Après notre alerte auprès du ministère de la Transition écologique, une réunion au sommet a été organisée avec une première bonne nouvelle pour Greg.
Après de longs mois de discorde, du coup, il a enfin été reconnu qu'il s'agissait bien d'un manquement administratif sur notre dossier qui nous a conduit à cette situation actuelle. Donc c'est déjà une première petite victoire pour nous, enfin reconnaître ce qu'on essaye d'expliquer depuis plus d'un an.
Alors c'est déjà une avancée, hein, évidemment, mais la situation est quand même toujours bloquée.
Alors, le pressing ne peut pas y couper, il va falloir faire contrôler ce fameux taux de pollution de la boutique.
Ça c'est très bien.
Bon, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des conditions qui seront plus souples.
Il y a des engagements qui ont été pris, à savoir limiter au strict nécessaire les vérifications afin d'obtenir cette attestation. Le nouveau sous-préfet souhaitant régler le plus rapidement possible cette situation.
Donc la prochaine étape pour Greg, transmettre des devis au service de l'État qui envisage une aide financière. Et une sénatrice, Marie-Claude Lhermitte, accompagne désormais la famille et nous l'assure. Ouais, le dossier n'est pas pris à la légère, elle suit hein, vraiment assidûment ce dossier. Et nous aussi, hein, bien sûr, on va continuer à suivre ça de près.
Donc c'est une bonne nouvelle pour Greg et vous venez également avec une autre bonne nouvelle sur le plateau d'Estelle Midi.
Alors vous vous souvenez de Greg, Estelle, mais vous vous souvenez peut-être de Julien. C'était un jeune homme, un jeune étudiant qui avait réussi son examen du permis de conduire en août.
Ah mais qu'il n'avait jamais reçu.
Exactement.
Mais oui.
Exactement, quelle mémoire.
À cause de la poste.
Exactement, il attendait depuis 8 mois sa petite carte rose, le document physique. Il y a eu une première enquête postale, une seconde enquête postale. Voilà, ça y est, grâce à notre intervention, Julien a enfin reçu son permis. Il va pouvoir conduire en toute sérénité.
Et il est où celui qui était perdu?
Dans les larmes de la poste.
C'est ça. Bon, enfin, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour Julien et pour Greg. Bravo, Guillemette. Mission accomplie, une nouvelle fois, grâce à toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous, Amélie Rosic, Guillemette Franquet ou encore Solène Leroux. Dans un instant, on va se poser cette question. Est-ce que vivre à la campagne, c'est l'enfer? Guillemette, est-ce que vous avez des envies de petits oiseaux, de verdure, de campagne, de liberté ou pas du tout?
Alors, à titre purement personnel, oui. pas particulièrement. Ouais. Moi, je suis très 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 citadine. Ça veut pas dire
vous
que je ne
sens pas campagne. Ça c'est vrai.
C'est vrai, mais c'est pas vrai. Vous me le dites. Mais je vais à la campagne ce week-end. Alors je vous redirai lundi si j'ai eu envie de partir pour toujours.
C'est
sans retour.
Oui, vous êtes du genre à aller passer un week-end dans le Perche, mais pas plus quoi.
Alors c'est la Normandie. C'est encore plus près de Paris.
C'est ça. Mais je vois tout mais à fait le genre. C'est le genre de Pierre Rondeau.
Le samedi soir, tu dis finalement c'est bien la campagne. On ne vivrait pas ici, puis le dimanche soir, c'est bon, on va y aller.
On va y aller.
Parce que sinon les bouchons.
C'est bien, on se casse.
Allez, merci.
Alors, non, mais on vous pose cette question pour être plus sérieux parce qu'il y a un chiffre terrible hein, qu'on a appris ce matin. Les jeunes ruraux passent quand même plus de 2h30 par jour dans les transports et on va se demander si effectivement la vie à la campagne est devenue un enfer. Dites-nous si par exemple vous faites partie de ces urbains qui ont quitté la ville pour la campagne, si vous en êtes heureux, si vous en êtes déçu, si vous adorez la vie là-bas, si vous la détestez. En tout cas, on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.